www.radioscoop.fr.
Religion du monde, Geneviève Delru.
Bonjour à tous. Qu'est-ce que la tradition ? Qu'est-elle censée transmettre ? La conception que l'on s'en fait, figée ou vivante, revient au premier plan aujourd'hui, et cela dans toutes les religions. Mais c'est à la tradition dans l'Église catholique que nous nous intéresserons dans cette émission, avec l'intervention d'éminents théologiens, le prêtre suisse contestataire Hans Küng et le père Bernard Sesbué. Il y a un an, en effet, en juillet 2007, cette question de la tradition se reposait avec acuité avec le motu proprio « Summorum Pontificum » publié par le pape Benoît XVI, qui redonnait droit de cité à la messe dite de Saint-Pie V, autrement dit la messe en latin. Il s'agissait certes d'une tentative de réconciliation avec la minorité intégriste de l'Église catholique, mais cette décision n'était malgré tout pas totalement neutre. Aussi, avant d'écouter Hans Küng et le père Bernard Sesbué sur cette question de la tradition, Nicolas Senez, journaliste au quotidien La Croix, revient sur le schisme déclenché à Écône en Suisse par Mgr Lefebvre il y a 20 ans avec l'ordination d'évêque de la fraternité sacerdotale Saint-Pie X. Nicolas Senez, qui vient de publier chez Bayard le livre « La crise intégriste », montre bien que derrière la messe en latin, c'est bien le Concile Vatican II qui est remis en cause.
Pour les intégristes, la question liturgique, la question de la messe, on dit messe en latin, mais en fait c'est plus profond que ça, puisque c'est au-delà de la langue, c'est vraiment la forme et le rite qu'on appelle le tridentin, c'est-à-dire le rite du Concile de Trente. Ça a été un drapeau pour une contestation des décisions du Concile Vatican II.
Avec un étendard, Mgr Lefebvre.
Un porte-étendard qui arrivait d'ailleurs assez plutôt tard sur ce sujet-là, hein, la question de la messe, finalement, il commence à s'y intéresser dans les années 69-70, alors qu'avant, il était plutôt sur une contestation d'autres sujets du Concile.
Alors, que contestent finalement les intégristes dans Vatican II ?
Alors, la principale question, le nœud du problème pour eux, c'est la question de la liberté religieuse. Pour eux, il n'est pas possible d'avoir de liberté religieuse, puisque l'Église catholique porte la vérité, l'erreur ne peut pas avoir de droit pour eux. Et donc, quand Vatican II reconnaît la question de la liberté religieuse, la possibilité pour tout homme de choisir sa religion, pour eux c'est insupportable. On n'a pas le droit de laisser les gens choisir l'erreur. Or, c'est justement sur cette question de la liberté religieuse que l'Église voit bien que non seulement elle est contestée, mais qu'elle peut aussi, dans les régimes totalitaires, dire « mais les catholiques ont le droit à la liberté religieuse ». Et c'est là-dessus, par exemple, que Jean-Paul II a beaucoup agi et a contribué à faire tomber les régimes de l'Est.
En fait, les traditionalistes ne sont pas pour la séparation de l'Église et de l'État.
Ah non, ils le disent très bien, l'État se doit d'être catholique, de protéger l'Église catholique, alors avec, pour eux, ils expliquent une tolérance pour les autres cultes, mais quand même, le culte catholique, ça doit être vraiment celui qui est protégé, mis en avant par l'État.
Parce qu'il y tient la vérité. Alors, dans ce livre, vous faites un portrait tout à fait intéressant de Mgr Lefebvre, homme du Nord, très influencé par les idées de Charles Maurras, qui voit finalement dans la démocratie une forme de décadence, et qui finalement qui situe tout cela, toute cette crise française, dans la Révolution. Parce que finalement, l'affaire de Mgr Lefebvre est une affaire très française.
Oui, très française. Quand on regarde ce que disent même toujours aujourd'hui les intégristes, pour eux, le Concile, ça n'est jamais que la traduction de 1789 dans l'Église. C'est liberté, égalité, fraternité dans l'Église, liberté, liberté religieuse, égalité, collégialité épiscopale, fraternité, toutes les religions se valent, c'est l'œcuménisme. Donc pour eux, ils vivent encore le Concile comme l'héritage de 89, un héritage que Charles Maurras voulait absolument détruire. Marcel Lefebvre, lui, son père, était membre de l'Action française. Il a étudié au séminaire français de Rome, qui est un séminaire très influencé par l'Action française et par les idées de Maurras. Alors, lui-même était sans doute pas maurrassien, parce que dans la pensée de Maurras, il y avait des choses fondamentalement contraires à la doctrine catholique. Mais en même temps, il y a finalement, ça baignait dans un esprit de maurrassisme et aussi un esprit méfiant vis-à-vis de l'Église institutionnelle, qu'on retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui dans le monde intégriste. Finalement, les évêques, c'est tous des gauchistes. On retrouve beaucoup encore dans le discours intégriste aujourd'hui.
Ce que vous soulignez dans votre livre, Nicolas Senez, c'est que finalement, Mgr Lefebvre, vivant longtemps en Afrique, puisqu'elle était cardinale donc de Dakar, eh bien n'a pas vu les évolutions qui se déroulaient en Europe, les évolutions intellectuelles notamment.
Oui, on peut se poser la question, pourquoi Lefebvre est-il devenu Lefebvre ? Parce que parmi ses condisciples qu'il y avait avec lui au séminaire français à Rome, bien, il y avait des gens comme le futur cardinal Garonne, qui allait être justement une des grandes voix de Vatican II aussi, un ami proche de Jean-Paul II. Alors, j'essaie de me poser la question, bah, qu'est-ce qui a fait que Lefebvre est parti dans l'intégrisme ? J'y vois d'abord une part son caractère, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup méfié des spéculations théologiques. Donc déjà d'emblée, ce qui s'est passé à Vatican II, c'est ces théologiens qu'il a pu y avoir, de Lubac,
Congar,
tout ça. Pour lui, déjà, il regarde avec une certaine méfiance. Et puis ensuite, je pense que son passage en Afrique, où il a fait d'ailleurs beaucoup de choses pour l'inculturation, par exemple, de l'Église africaine, en même temps, ça l'a éloigné de tout ce qui s'est passé à l'époque en Europe, et en particulier la guerre. Je crois que le Concile Vatican II voulait répondre à tout le questionnement philosophique qui était né de ce qui s'était passé pendant la guerre, y compris de la Shoah. 45, il y a une interrogation philosophique qui finalement interroge aussi l'Église. Et Vatican II va essayer de répondre à tout ça. Et lui, il n'a pas vécu tout ce qui s'est passé dans la Seconde Guerre mondiale en Europe. Donc il voit ça de très loin. Pour lui, c'est pas la question.
Alors, ce que vous soulignez, Nicolas Sonnet, c'est que Rome, finalement, multiplie les tentatives pendant 20 ans pour que ce schisme n'ait pas lieu. Hein. Même en 88, on voit les efforts de Rome jusqu'au dernier moment pour que ces ordinations n'aient pas lieu. Alors que Mgr Lefebvre a toujours dit, voilà, Rome n'a rien fait pour nous, finalement. Nous sommes arrivés là parce que Rome n'a pas voulu entendre nos demandes.
Dès 74, Rome prend très au sérieux tout ce que dit Mgr Lefebvre, tout ce que dit la Fraternité Saint-Pilice, et va toujours tenter d'arrêter Mgr Lefebvre, au prix parfois de concessions assez fortes. Et c'est toujours les intégristes qui ont claqué la porte.
Alors, comment interpréter, il y a près de bientôt un an, c'était en juillet dernier, 2007, la décision de Benoît XVI de libéraliser la messe en latin, de la rendre possible?
Je crois que c'est justement à replacer dans la ligne de tout ce que Rome a fait en direction des intégristes. Et je dirais que c'est un peu la dernière chance. Benoît XVI, hein, c'est Joseph Ratzinger, c'est celui qui a négocié en 88 avec Lefebvre, qui va réussir en mai 88 à arracher un accord, que Lefebvre dénoncera dès le lendemain. Et ça, je crois que pour Joseph Ratzinger, ça a toujours été une blessure. Il avait en main l'unité de l'Église, il était responsable de la maintenir à ce moment-là, et il a échoué. Aujourd'hui, il est le pape, il est celui qui est le plus haut responsable de l'Église et de maintenir son unité. Et il veut à tout prix essayer de raccommoder cette déchirure qu'il y a eu.
Alors, le schisme, est-ce qu'il va durer? On voit un Mgr Fellay qui finalement, c'est au mois d'avril dernier, dit « Moi non, tant que Vatican II ne sera pas remis en cause, eh bien on ne reviendra pas dans le giron de Rome ».
J'ai l'impression que Benoît XVI est allé jusqu'au bout de ce qu'il pouvait donner, avec de grosses concessions sur les questions liturgiques. En même temps, il ne peut pas revenir sur Vatican II, il le sait très bien, il n'en a d'ailleurs pas envie lui-même, il a été un des acteurs de Vatican II. Et pour eux, les intégristes, même un Vatican II bien interprété, c'est déjà trop de Vatican II. Donc, pour eux, on ne pourra pas y arriver.
Et puis, c'est une église parallèle qui s'est constituée. Et on voit mal, effectivement, Mgr Fellay être le numéro, on va dire, 15 à Rome, plutôt que d'être numéro 1 à Écône.
Oui, j'ai l'impression que finalement, ce statut d'église parallèle leur convient plutôt bien.
Je vous remercie, Nicolas Sonnez. Je rappelle le titre de votre livre, La crise intégriste, 20 ans après le schisme de Mgr Lefebvre. Et c'est publié chez Bayard Éditions. On poursuit cette émission avec le théologien contestataire suisse Hans Küng. Hans Küng a été ordonné prêtre en 1954. En 1960, il est nommé professeur de théologie à Tübingen, en Allemagne, où il a pour collègue Joseph Ratzinger, futur pape Benoît XVI. Comme lui, il participera au Concile Vatican II en tant qu'expert. Dans les années 70, il publie de nombreux ouvrages de réflexion théologique, notamment sur le dogme de l'infaillibilité du pape, qui lui valent d'entrer en disgrâce avec Rome. Il sera toutefois reçu par le pape Benoît XVI peu de temps après son élection. Hans Küng a publié ses mémoires aux éditions du Cerf. Nous l'avons demandé lors d'un récent passage à Paris comment il voyait la situation de l'Église.
C'est très difficile à juger. Je pense que la situation est extrêmement ambivalente, ambiguë. N'est-ce pas, si vous regardez les grandes congrès, conventions de Cologne, par exemple, avec la jeunesse, ça donne l'impression que nous sommes très forts. En effet, ce sont des villages de Potemkin, comme on dit en Russie, c'est-à-dire on montre des façades, des maisons à l'intérieur sont dans une crise profonde. Il y a une pénurie de prêtres immense. Il y a une destruction des structures paroissiales partout. Il y a un exitus avant tout des femmes et il n'y a pas une intégration de la jeunesse. Je connais la jeunesse de beaucoup de pays et je sais que ces mouvements charismatiques, catholiques, conservateurs ne représentent pas la jeunesse comme telle. Et c'est extrêmement dangereux de penser que nous sommes sur une bonne voie.
Et est-ce que vous considérez que Benoît XVI est le dernier pape d'un certain visage de l'Église ?
Je pense qu'il avait quand même fait un acte courageux de recevoir son ancien collègue de Tübingen après 27 ans de silence de son prédécesseur qui n'a pas répondu à une lettre. Mais j'ai un peu peur que lui-même, il ne fait pas ce qui est nécessaire et qu'il est de nouveau trop concentré sur le passé. Et il n'a pas montré comment on peut résoudre la crise. Alors ce manque d'action, je pense, est très dangereux pour notre Église. Et dans ce sens, il semble très souvent d'aller en retour. On ne peut pas avancer sur cette voie vers le passé.
Une question qui va peut-être vous paraître un peu provocatrice, que je pose donc à l'un des plus grands théologiens du XXe siècle. Quel est l'avenir aujourd'hui de la théologie ? Quand on voit finalement une société qui se sécularise d'une part, mais d'autre part, même chez les croyants finalement, même chez les pratiquants, une culture religieuse assez floue, assez vague, assez faible.
Il y a encore de bons théologiens, sans doute, mais ils sont trop, de nouveau, ils ne se sentent pas libres. J'ai écrit le premier volume de mes mémoires comme un combat pour la liberté. Alors, il semble que de nouveau, on a la censure romaine, on a une politique pour les chaires de théologie dans les universités, et tout cela provoque une situation de peur, de timidité. Il n'y a pas beaucoup d'actes courageux. Et avant tout, ce n'est pas très attrayant pour des jeunes gens d'étudier la théologie.
Oui, c'est ça ma question. Aujourd'hui, la théologie, c'est quelque chose d'exigeant, de difficile. C'est quelque chose de normatif aussi.
Si une théologie n'est pas capable de parler aux gens d'aujourd'hui, de parler aux jeunes gens, de parler aux gens des sciences, ou bien de la politique, ou de l'économie, alors elle n'est pas... une théologie de ce siècle, du siècle passé.
Une théologie incarnée dans son époque, c'est ce que défend également le père jésuite Bernard Sesboué, professeur émérite à la faculté de théologie du Centre Sèvres à Paris. Une conception exposée dans deux livres, « La théologie au XXe siècle et l'avenir de la foi » chez Desclés de Brouwer et « L'évangile et la tradition » chez Bayard Édition. Alors précisément, qu'est-ce que la tradition ? Quelle définition donner à ce terme, père Bernard Sesboué ?
La tradition, c'est la transmission. La tradition, c'est un mot latin qui veut dire exactement transmettre, transmission. Alors, pourquoi la transmission ? Parce que le Christ s'est fait homme, il s'est donc incarné dans un lieu, dans un temps, et le problème inévitable, c'est de savoir comment sa parole, son action, va pouvoir se répercuter, va pouvoir être connue à travers le temps et l'espace. Or, cela ne peut se faire que par les moyens humains de transmission. Ça passe comme l'enseignement. L'enseignement est une immense transmission de génération en génération. Eh bien, la tradition de l'Église, c'est la transmission appliquée à l'Évangile.
Bien. Alors, certains peuvent voir dans la tradition, effectivement, une forme de répétition. Répétition des mots, répétition des gestes, répétition des rituels. Alors, comment voyez-vous, effectivement, cette conception, vous, de la tradition ?
Eh bien, je reprendrai l'image que j'ai déjà évoquée de l'enseignement. Un professeur, un enseignant, ne peut pas répéter matériellement ce qu'il a appris lui-même. Ce serait, précisément, à la limite, une parole de perroquet. Il faut que sa parole soit toujours vivante. Il faut qu'elle soit toujours adaptée à ses auditeurs. Et Dieu sait si, suivant les générations, les jeunes changent. Il faut donc qu'une tradition soit vivante. Et si vous voulez, la grande thèse que j'ai essayé de mettre dans mon petit livre, c'est qu'il n'y a pas de tradition qui ne soit en même temps créatrice. Autrement dit, l'idée de la tradition purement répétitive, c'est une sorte de sclérose de la tradition, ce n'est plus la tradition. Nous savons que dans la tradition, il y a toujours une dimension d'oralité, c'est-à-dire une écriture qui est sans cesse l'objet d'une interprétation. C'est là que quelquefois le bât blesse, n'est-ce pas ? C'est qu'il ne peut pas y avoir de tradition sans que celui qui transmet ne comprenne en profondeur ce qu'il a à transmettre, c'est-à-dire le réfléchisse, c'est-à-dire à travers les siècles, à travers les cultures, soit capable de le transposer quand il faut le transposer, et capable de se mettre à la portée de son auditeur. S'il ne fait pas cela, on dira « ce n'est pas un bon enseignant ».
Alors, dans votre livre, mon père, vous citez la parole du père Yves de Montcheuil à propos précisément des vrais et faux semblants de la tradition. « Ce ne sont pas les obsédés du passé, dit-il, mais les êtres profonds qui prolongent la tradition. »
Oui, parce que la tradition, elle se continue toujours. La tradition n'est pas une affaire qui est reçue du passé. La tradition, c'est une affaire présente. La tradition ne s'arrête jamais. L'Évangile, enfin l'Écriture sainte, l'Ancien et le Nouveau Testament, par définition, ce sont des corpus clos, des corpus auxquels on ne peut plus ajouter de livres. Mais précisément, ces corpus, pour rester vivants, doivent être l'objet de la tradition. C'est pourquoi le rapport entre la tradition et l'écriture, c'est pas le rapport de deux récipients l'un à côté de l'autre, comme si l'un contenait ce que l'autre ne contient pas. C'est un rapport, je dirais, du mouvement de transmission à la chose transmise. Et c'est tout à fait différent. Ce n'est pas un autre contenu, c'est le même contenu en tant qu'il demeure vivant pour être transmis.
Alors, par exemple, la réhabilitation de la messe en latin, il y a pratiquement un an, donc par le pape Benoît XVI, comment voyez-vous cette réhabilitation ? Est-ce que la messe en latin, selon vous, fait partie de la richesse de la tradition, qu'il est bon, effectivement, pourquoi pas, de réhabiliter, ou bien est-ce qu'au contraire, c'est une obsession du passé ?
Alors, il y a beaucoup de choses qu'il faudrait dire. Je crois que pour ceux qui la réclament à corps et à cri, c'est une obsession du passé. Et c'est la difficulté à admettre ce que je viens de vous dire, que la tradition est vivante et que la liturgie a toujours été vivante dans l'Église, la tradition liturgique. De son côté, je crois que l'intention de Benoît XVI est de tout faire pour éviter, au prix de concessions, pour éviter que il n'y ait un schisme qui se durcisse, qui se prolonge dans l'Église, et de tout faire pour, je dirais, permettre la réconciliation de tous les catholiques. En ce sens-là, je crois qu'il a raison. Mais alors, le problème va être de savoir comment cela va être interprété. Est-ce que la liturgie romaine et latine appartient au trésor de l'Église ? Oui, sans doute, on ne peut pas le nier. Mais je dirais, au même titre que les traditions, que les liturgies orientales, qui sont multiples, appartiennent au trésor de l'Église. Et là encore, pour reprendre tout ce que je vous ai dit en commençant, c'est que ce qui est important dans la liturgie, c'est de l'adapter, c'est de faire qu'elle soit perçue, reçue de manière intelligible par les fidèles, et on ne me fera pas croire en ce moment, dans notre monde culturel d'aujourd'hui, que le latin qui devient inconnu à tout le monde, que ce latin est une langue de diffusion de la liturgie. Alors on vous dit, oui, mais ça respecte le sacré. C'est une conception très curieuse et très étrange du sacré, parce que cela définit le sacré comme ce à quoi je ne comprends goutte. Or, une chose n'est pas plus sacrée parce que je ne la comprends pas, c'est la dignité, la grandeur de la liturgie de véhiculer le sens du sacré, ce n'est pas de se mettre délibérément dans une situation d'une langue que l'on ne comprend pas.
C'était le père Bernard Sesboué. Religion du monde, Geneviève Delerue, Patricia Lecomte, Joseph Chéneau vous donnent rendez-vous dimanche prochain. Bonne semaine à tous.